Mais par exemple, Il était une fois, classique, le conte, on sait qu'on va commencer un conte. Et donc, ça ouvre le. C'est comme si on créait une petite bulle dans le temps. Donc, une bulle dans le temps, mais hors du temps, où on va précisément raconter cette histoire. Donc, une formule au début. Et il y a souvent une formule à la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, ça, c'est des formules qui changent en fonction des cultures, qui changent en fonction des époques. Voilà. Et parlant de bulles dans le temps mais hors du temps, il y a souvent un cadre spatio-temporel très flou. Alors là aussi, il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est difficile de dire où ça se passe précisément. Il n'y a pas de lieu défini, c'est le château, la rivière, la campagne, le village. L'époque, on peut avoir des indices, on peut voir s'il y a un château, on peut se dire « Ah, c'est à peu près l'époque médiévale », mais le Moyen-Âge, c'est quand même vaste, donc voilà. On a sur les personnages aussi, ils ont une caractéristique souvent qui les définit et c'est à peu près tout. C'est pas des personnages de roman très détaillés ou quoi, c'est souvent les personnages servent à illustrer une caractéristique, un caractère, une vertu, un défaut, donc très stéréotypé. Et donc, ils ont des noms très stéréotypés aussi. Alors, soit c'est des noms très communs, Jean ou Marguerite, donc des noms interchangeables qui passent partout. Ou alors, juste descriptif, Blanche-Neige. Elle a la peau pâle, donc voilà.
D'accord. Alors, à l'origine, le conte est un récit. Si vous êtes d'accord qu'on utilise ce mot récit, bon, qui vient de la tradition orale. Mais en quelques mots, qu'est-ce que le conte véhicule et qu'est-ce qu'il transmet ? En règle générale, si on pouvait le définir en quelques mots.
Là aussi, c'est une question qui, mine de rien, en fait, est très vaste. Voilà.
Parce que moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on y met dans un conte ?
Eh bien, un peu ce qu'on veut. Ça dépend des époques, mm-hmm. Et ça dépend des mœurs, et ça dépend de nos cultures, et ça dépend de l'endroit géographique où on vient, ça dépend de notre éducation. On met un peu ce qu'on veut. Alors, il y a souvent des morales. Enfin, c'est très... Aujourd'hui, on pense tous à des contes avec des morales, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Parce que ça sous-entend qu'il y ait quelque chose de bon ou de mauvais. Mais plus que de la morale, il peut y avoir souvent des leçons de vie. Par exemple, soit il ne faut pas mentir, soit mentez et soyez plus malin que la personne... Il y a plein de contes où en fait c'est des anti-héros qui sont pas spécialement punis à la fin, c'est la vie en fait, ça décrit la vie.
D'accord. Alors, vous mettez un point d'honneur à citer dans votre mémoire, par exemple, Madame Aulnoy, Catherine Bernard, Mademoiselle l'Héritier, Mademoiselle de la Force, c'est ça, ou encore Mme Durand, des femmes. Parce que nous, quand on pense souvent conte, on pense auteur, on pense des hommes, on pense Perrault, on pense les frères Grimm, etc. C'était des oubliés de l'histoire, ces femmes ?
On peut le dire, parce que elles sont... Alors, ces femmes, toutes les femmes que vous avez citées, ce sont des femmes qui ont vécu au XVIIe siècle, toutes des autrices de contes merveilleux, et elles ont toutes un peu inventé le genre de contes de fées, vraiment, plus que de contes populaires. Et en fait, c'était pour elles, donc c'était des femmes nobles qui pouvaient se permettre d'écrire et de créer des histoires. Donc en fait, c'était un exercice de cours. C'était pour se divertir, voilà. Et elles ont été oubliées parce qu'on a retenu qui du XVIIe siècle ? On a retenu Charles Perrault, qui a publié aussi des contes, notamment, surtout des contes populaires. Mais voilà, c'est vrai que ces femmes-là, elles ont un peu, à moins que vraiment on fasse des études et qu'on se des études de littérature et qu'on se penche vraiment sur les contes, c'est rare de croiser leurs noms.
Alors moi, pendant très longtemps, par exemple, j'ai souvent situé Charles Perrault et les frères Grimm comme des contemporains, comme s'ils allaient pouvoir aller prendre une bière ensemble. Et je crois que c'est pas du tout ça.
Non. Alors Charles Perrault, c'est le XVIIe siècle. Et les frères Grimm, c'est en 19e, début 19e. À la rigueur, les frères Grimm étaient contemporains avec Andersen, qui a écrit La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard. Donc Andersen qui vient du Oui, auteur danois. Et les frères Grimm étaient allemands. Mais en fait, ce sont des romantiques. Alors
D'accord.
que Perrault, c'était un moderne, mais c'était du XVIIe siècle. Il faisait partie de la mouvance des modernes, mais modernes au XVIIe siècle.
Très bien. Alors maintenant, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, la traduction hein, des fameux contes des Mille et Une Nuits en français par Antoine Galland, est-il pour vous vraiment un moment, un instant, comme un point de bascule majeur pour l'essor du conte à travers la littérature écrite?
Parce que ça se passe à la charnière. Donc, les Mille et une Nuits, pour redonner un petit peu de contexte, c'est Antoine Galland qui en fait la traduction la plus connue. Il y a eu beaucoup de traductions, mais c'est la plus connue. Vraiment à la charnière entre le XVIIe et le XVIIIe. Et on voit bien l'évolution des contes, soit qui avant étaient populaires ou merveilleux, donc Perrault ou Madame de Noailles, voilà. Et là, on voit qu'on passe au siècle des Lumières et on voit qu'on passe à une société contemporaine axée sur le progrès, axée sur plus tant sur la noblesse, mais sur l'argent et l'ascension sociale. Les personnages, ce ne sont plus des princes, des princesses, des chevaliers, ce sont des marchands, ce sont des voleurs comme Aladdin, ce sont des esclaves comme dans Ali Baba et les 40 voleurs, avec l'esclave Morgana. Et leur réussite n'est plus due à leur vertu, mais à leur ruse, ce qui leur permet de s'élever socialement, et ce qui ne leur permet pas d'acquérir de l'honneur, mais de la richesse. Donc on voit bien là l'évolution de la société des Lumières, où le 17e, voilà, ça tout change au 18e.
Alors, on arrive presque au terme de ce débat, mais avant de conclure, je voulais savoir, vous qui êtes maintenant, qui êtes presque une bibliothécaire, aujourd'hui, quelle est la place du conte hein, dans les bibliothèques ou médiathèques, dans les municipalités?
Alors, le conte est constamment présent dans les bibliothèques, puisque maintenant que le conte est très associé à la littérature jeunesse, on trouve souvent dans les bibliothèques les classiques. Et les classiques, c'est quoi? C'est une version du Chaboté, une version du Petit Chaperon Rouge. Donc c'est très présent. Après, il y a aussi en France ce qu'on appelle l'heure du conte, qui est très répandue dans les bibliothèques, qui en fait est une tradition anglaise, la story hour. Donc dans la traduction, c'est pas tout à fait histoire, mais c'est vraiment en France, on a vraiment pris le conte. Et donc il y a quand même cette tradition dans les bibliothèques de lire, de racontage, ou au moins de lire quelque chose à voix haute à des enfants, que ce soit des contes ou des albums ou autre chose. Mais voilà, il y a encore une tradition orale qui perdure dans les bibliothèques, envers et contre tout.
Merci beaucoup Aglaé pour ce moment d'échange qui nous a vraiment éclairés et ça aurait été vraiment dommage de laisser ce travail que vous avez fait en mémoire, comment dire, ce mémoire, de le laisser comme ça dans les tiroirs, je veux
Ouais,
dire.
merci beaucoup.
Maintenant, je vous en prie, maintenant je vais redonner la parole à Willow parce que je crois que tu as un moment de musique à nous faire partager.
Tout à fait. Une petite pause musicale, mais ne vous inquiétez pas, ça va raconter une histoire aussi. Parce que raconter des histoires, ça peut se faire aussi via la musique. Rodrigue fait partie des artistes qui aiment raconter, rêver et inspirer. Son album L'Entremonde, sorti en 2011, nous invite à voyager entre le rêve et la réalité. Le morceau que vous allez entendre s'appelle Le bal des sorcières. Laissez-le vous prendre par la main et vous faire découvrir son univers.
L'histoire va pouvoir commencer. Elle conte le sort d'un jeune garçon triste et solitaire qui n'arrive pas à jouir de sa réalité. Mais regardez-le qui court sans sa peau vers les portes de l'entremonde. Avant l'aube, il va mourir et rien ni personne ne pourra le sauver. Vous qui n'avez pas à périr ce soir, ceux qui vont mourir vous saluent. Mais avant, vous entendrez peut-être, enfin, si vous tendez l'oreille, qu'en réalité, aimer est un conte cruel.
Qu'est-ce ce que tu dis?
Je disais, c'est encore loin, ma reine.
Mais non, on y est. Remets ta robe en place, mon garçon.
Apparence. Comme vous êtes charmant, reflètent-ils en cœur, car on ne voit bien qu'avec un leurre, alors qu'un chandelier propose en chancelant
Acide, Mandragore, un assortiment.
Les murs dansent, dansent en zinzoline, et leur cœur de pierre murmure ma ruine. Dans mon aquarium, je vois nager la belle, son sourire de pion noir et toutes mes peines, tant que quelques vampires se croquent pour le plaisir de cours en corridor. Je ne fais que la suivre, des araignées rient comme des folles au plafond, tissent un conciliabule et susurrent à mon nom.
Dionysiaque, mon garçon. On dit qu'elle détourne les sens, les perceptions, et qu'alors l'horreur apparaît telle qu'elle est vraiment.
Oui, mais sous les paillettes et les voiles, il y a toujours un cœur qui bat, ma reine.
Je t'aurais prévu.
Voulez-vous danser? Je peux attraper les nuages, me rendre minuscule, stopper d'un doigt le cours de la nature, voyager n'importe où dans l'espace et le temps, me rendre invisible et parler aux serpents, marcher sur le changer le pain en or, percevoir d'autres mondes et même appeler les morts. Je peux dire non à tout ce que je n'aime pas, ressentir ou mourir. Mais tous les miroirs remontent, gris de ma triste apparence, pendant que la grande, la petite en cœur sonne l'éloge de la treizième. Le jour s'élève et s'estompe, ton emprise s'efface, la cour, les murs s'effondrent, mais au fond, pourquoi fuir à la clairière, le soleil brûle, les
tour des buildings brillent. Rue de la performance, carrefour du conformisme, les bons esprits dansent et m'abîment. Je ne ressens plus, emmène-moi ma belle, car aujourd'hui je plie. Sous l'adulte air, sous d'amours amers, le cœur fade et flétri. Dans les hautes sphères, on nous pousse dans une guerre du tous contre tous. Et on signe l'égide et on soigne ses rides, souriant à nos reflets de vide. Elle, elle savoure, elle gaspille, l'horizon se vendrait pour qu'elle admire. Un souffle d'émeraude entre mes lèvres, et la sorcière divine m'envoie en enfer dans mes veines volcaniques et démentes. Jaillissent des poissons de passion dissidente, et mes yeux violets leur sourient. Trois caméléons qui s'extasient et les fuient, et le son, et cette putain de vie oubliée pour de bon. Turn on, tune in. Chat noir allumeur impassible, en sortant d'un mur car rien n'est impassable. Et pendant un instant, mais n'a foutre de rien, je vois la fée marraine qui marie les destins, mes amantes, mes ennemis confondus. Je brûle les rétines de chaque inconnu, j'explose d'amour, ressens chaque onde de me sentir baisé avec le monde. Sur moi les yeux sémillants de la cour, la réalité et le seul frein à l'amour.
Morceau incroyable. Après ça, on va enchaîner sur une lecture d'un conte fait par les bibliothécaires de la bibliothèque de Châtelet.
The Vêtemensé de Jean-Marc Durouan et Laure Dufay aux éditions Frimousse. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup. Un grand méchant loup. Il a faim. Il a très faim. Il a même très très faim. Et il attend. Il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et un matin, arrive sur le chemin un lapin. Un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Le loup bondit en criant « Ah, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite. » Attends, grand méchant loup, attends. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Bah oui, j'ai dit, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite. Oh, toi, à mon avis, tu as un cheveu sur la langue. Ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup, ouvre la gueule pour voir. Ah, mais non, ouvre plus grand, je n'y vois rien. Ah. Eh bien voilà, j'avais raison. Tu as un cheveu sur la langue. Et puis un gros, dis donc. Un très gros. Il est même énorme. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça. Je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout, ne bouge pas.
Encore, mais... Vite.
Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
Je dis, encore, mais... Je veux pas rester comme ça toute la journée.
Le loup attend. Une heure. 2 heures. 3 heures. Quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux.
Ah, je vais te manger, petit lapin roux, je vais te manger tout de suite.
Oh lui, tu sais pas y faire, tu n'y connais rien, grand méchant loup. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre si tu veux manger du lapin. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre, il faut pas qu'on te voie, il ne faut pas qu'on t'entende, surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Allez. On va la refaire. Cache-toi derrière un arbre et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vu. Et dès que tu entends du bruit, hop, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord ?
C'est d'accord. Bah dis donc, t'es gentil quand même. Hein. T'es un bien gentil petit lapin roux.
Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend.
Il a faim, de plus en plus faim.
Il a comme qui dirait une faim de loup. Le loup attend une heure.
2 heures,
3 heures, quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit, je vais faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. Il bondit hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Bien au contraire, il est gros, très gros, très très gros. Il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses.
Excusez-moi, monsieur Ours Brun, je me suis trompée. Je vous ai pris pour un petit lapin roux. Quoi ? Moi, un petit lapin roux ? Mais ça va pas, la tête. Attends un peu pour voir. Poursuivi par l'énorme animal, le loup court. Il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que, boum, patatras, le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là, en plein milieu de son chemin. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents. Alors attention, vous qui écoutez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt, vous y rencontrerez peut-être le grand méchant loup, car il existe toujours. Oui, parfaitement, il existe toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien, car depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu végétarien.
HTL, c'est sur le 99.1.
Maintenant, nous allons écouter un autre conte que Michel va nous lire, Maïkan.
Oui, alors Maïkan. Alors moi aussi, je vais vous parler d'une histoire de loup, mais sous un petit peu sous d'autres latitudes. Le conte s'appelle à la fois Maïkan ou l'enfant qui n'avait pas trouvé son nom. Il y a longtemps, bien longtemps, dans une époque lointaine, très lointaine. Non, restons sur notre jolie planète Terre. Partons en voyage vers ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique du Nord. Allons au Canada, précisément au nord du Québec. Nous ne sommes pas dans ce que vous nommez aujourd'hui Pôle Nord, mais dans une région subarctique, où les arbres sont hauts et nombreux. Vous les appelez aujourd'hui forêt boréale. Une région qui ne se regarde pas de haut en bas. Elle se visite comme un cercle qui court tout autour de la Terre. Allons à la rencontre des peuples Inuits et Naskapi. Attention, je ne parle pas des Inuits, mais bien des deux autres peuples des Premières Nations vivant au Québec, parmi bien d'autres, les Inuits et les Naskapi. Ils vivent là où la neige recouvre de son blanc manteau les plaines et les forêts pour les longs mois d'hiver. L'été, c'est la chaleur et l'humidité, le combat avec les moustiques. Mais il existe deux saisons enchantées. Le printemps, quand la nature renaît, les fleurs poussent, le gibier revient, le soleil réchauffe le fond de l'air sans nous brûler la peau. Puis l'automne, lorsque les feuilles des érables rougissent, que la douceur demeure nuit et jour. Là-bas, l'automne, c'est la saison où il est encore temps de jouer dans la nature, en préparant l'hiver, qui arrivera toujours, sans crier gare. Remontons plusieurs milliers d'années en arrière, lorsque le cercle de vie des êtres humains n'avait pas été brisé. La chasse et la cueillette étaient leur mode de vie, et les Inuits migraient au rythme des saisons, sur un vaste territoire appelé Natasinan, ce qui signifie « notre terre » en langue Inuit. La notion de frontière n'existait pas dans leur culture nomade. Durant un hiver glacial, la tribu des Natashquan avait établi leur campement au sud du fleuve que vous nommez aujourd'hui le Saint-Laurent, à la limite de la forêt boréale du Nord. Une tribu où vivait un enfant aux cheveux longs, mais qui n'avait pas trouvé son nom. Il, elle, Yel hésitaient encore. Suis-je au fond de moi un garçon, une fille ou les deux à la fois ? De toutes les manières, quand l'enfant qui n'avait pas trouvé son nom a envie d'être avec ses sœurs, sa maman, d'autres garçons qui aiment la couture, personne ne l'ennuie. Quand l'enfant qui n'a pas encore trouvé son nom part chasser avec d'autres garçons ou d'autres filles, personne ne l'ennuie. L'enfant qui n'avait pas trouvé son nom était donc très bon couturier et déjà un redoutable chasseur. C'était une époque lorsque ces chants venus du cœur de la forêt. Étaient entendus, Il se pouvait, il était possible que de jeunes enfants de la tribu, imprudents, disparaissent à jamais. Les hivers pouvaient être rudes et longs, alors la nourriture pouvait se raréfier pour tous les êtres vivants de la terre. C'était une époque troublée, où les chants venant du cœur de la forêt n'étaient plus aussi harmonieux qu'autrefois. Nous sentions un trouble, une lutte bien méchante au cœur de la forêt, une lutte bien méchante pour le pouvoir. Beaucoup trop d'enfants disparaissaient. Toute la tribu avait peur. Allons-nous entrer en guerre contre... C'était une époque troublée, où l'enfant qui n'avait pas trouvé son nom dormait dans son tipi, emmitouflé sous les peaux de rennes qu'il avait lui-même tuées l'été dernier. Ses petits frères, petites sœurs, son père et sa mère dormaient tout près de lui. L'enfant qui n'avait pas trouvé son nom se réveille en sursaut. Il a entendu du bruit dans le tipi, un bruit étrange, un pas feutré, une démarche inhabituelle. C'est une nuit noire sans lune, quand le ciel est parsemé de myriades d'étoiles, avec une visibilité presque nulle. Mais écouter, entendre, l'ouïe est intacte. L'enfant qui n'avait pas trouvé son nom entend un grognement. Tout le monde autour de lui dort à poing fermé comme s'il n'entendait plus rien, que tous dormaient pour l'éternité. Deux yeux brillants comme le feu le regardent. L'enfant qui n'avait pas trouvé son nom se saisit alors de son couteau et affirme « Je me battrai jusqu'à la mort si nécessaire. Je suis un être doux et tendre, autant que je suis un guerrier. » Un long museau avec des dents blanches, éclatantes, une langue rouge pendante, se rapproche de lui. C'est bien un loup. Son pelage est encore plus noir que la tourbe. Le loup est immense, aussi grand que deux hommes. Le loup parle la langue des humains. «
Je me nomme Maïkan, humain qui n'a pas de nom. J'ai besoin de toi.
Que me veux-tu ? » demande l'enfant qui n'a pas trouvé son nom.
Je suis le chef. J'ai été élu, il y a bien des lunes, le roi des loups. Aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon rôle fédérateur, de rassembleur des meutes de loups. Je n'ai pas eu le temps, bien imprudent que j'ai été, de préparer ma succession. J'ai perdu mon pouvoir parce que je suis blessé et que je ne peux plus courir. Aujourd'hui, des petits chefs autoproclamés font régner la terreur. Ils s'accaparent toutes les richesses, ne veulent rien partager. Toi seul peux m'aider.
Comment ? Questionne l'enfant qui n'a pas trouvé son nom.
Une écharpe de bois s'est plantée dans l'une de mes pattes, la patte avant, la droite. J'ai tout essayé pour la retirer, me lécher, me mordiller jusqu'au sang. J'ai demandé l'aide de mes frères, mes fils, mes filles, mes sœurs. Personne n'y est parvenu. Il n'y a que toi, être humain, avec l'aide de tes doigts, qui pourra me la retirer.
L'humain n'est pas le seul à avoir des mains. N'as-tu pas demandé au raton laveur de t'aider ? Interroge l'enfant qui n'a pas trouvé son nom. Je ne t'intéresse pas, ou presque. Je suis si maigre que tu n'aurais que du poil à te mettre sous la dent si tu me croquais. Et même en période de disette, je grimpe aux arbres aussi rapidement qu'aucun loup ne m'a jamais attrapé.
T'aider ? Je n'en ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu m'es inutile.
Passe ton chemin,
m'a répondu le raton laveur. Je suis reparti le cœur si lourd. J'ai beau me nommer Maïkan, être le roi des loups. Pourtant, il suffit de bien peu pour que je ne sois plus rien ni personne. Triste, je me suis endormi au creux d'un arbre. Et c'est là, jeune être humain, que tu es venu me visiter en rêve. Étais-tu fille ou garçon ? Je ne pouvais pas le distinguer. Peu importait, je t'ai vu comme cerf et loup à la fois. Et ton visage m'est apparu, clair comme l'eau pure. Cette nuit, je suis devant toi.
Je vais t'aider. Mais avant, nous devons engager un pacte, toi et moi, répondit l'enfant qui n'a pas trouvé son nom.
Je t'écoute, dit le loup.
Je vais retirer cette écharpe de bois qui te fait tant souffrir. Sème le chaos parmi ton peuple et le mien. Je te demande, à ce que les loups n'attaquent plus jamais les humains, même les enfants. Puis lorsque nous, humains, chasserons les rennes qui se déplacent toujours en troupeau, vous nous suivrez. Nous chasserons